Et si les mathématiques étaient une voie privilégiée pour mener à la vie heureuse? Dans son éloge des mathématiques, le philosophe Alain Badiou raconte sa fascination pour les maths en retissant le lien entre cette discipline et la philosophie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la joie de s'aventurer sur les chemins des mathématiques en goûtant au plaisir, par exemple, de la démonstration, freiné sans doute par une matière parfois enseignée avec trop d'austérité par des spécialistes peu accessibles. Alain Badiou est dans un instant l'invité de la Tête au Carré avec à ses côtés deux mathématiques. Jean Dombre et Frédéric Morlot qui se sont plongés dans son éloge des mathématiques et qui nous donneront leur point de vue sur son texte. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions pour dialoguer donc autour des maths, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science, Axel Villard, on parle du climat autrement et de l'éclipse de lune, on y revient.
Oui, bonjour Mathieu, une étude internationale s'est intéressée à la manière d'induire une prise de conscience climatique et le mieux serait de ne pas parler de fin du monde. Et nous reviendrons également sur l'éclipse de cette nuit. Beaucoup de Français avaient mis leur réveil, alors rendez-vous dans un instant avec vos questions sur Twitter.
C'est Stéphanie Texier qui réalise cette Tête au Carré préparée par François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Éloge des mathématiques, donc un livre d'entretien avec le philosophe Alain Badiou qui est notre invité. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. À vos côtés, nous avons convié les mathématiciens Jean Dombre et Frédéric Morlot. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alain Badiou, est-ce que les mathématiques peuvent vraiment orienter vers le bonheur?
Oui, c'est pas la première question. C'est la mienne. Il faut d'abord savoir un peu de quoi il s'agit. Mais je pense qu'il existe un bonheur des mathématiques, oui. Ouais. Et j'ai écrit ce livre en partie, non pas tant pour faire de la philosophie des mathématiques, je le fais ailleurs, mais pour essayer de transmettre le charme des mathématiques.
Jean Dombre, est-ce que les mathématiques restent aujourd'hui un élément de sélection sociale?
En France, oui. En France, très certainement, oui, malheureusement. Mais c'est peut-être aussi parce que nous n'avons pas d'autres moyens reconnus de sélectionner.
Ouais.
Ou en tout cas, nous ne voulons pas nous en donner les moyens.
On en discutera bien sûr avec vous tout à l'heure. Frédéric Morlot, est-ce que le jeu, par exemple, dans l'enseignement des mathématiques, est une bonne voie d'accès pour prendre du plaisir?
Il me semble que oui. Moi, en tant qu'étudiant, déjà, j'ai appris à aimer les mathématiques par le jeu. Mmh. Et maintenant, en tant qu'enseignant, si je fais la même chose avec mes élèves, c'est bien parce que je suis convaincu qu'eux aussi peuvent accéder au plaisir des mathématiques par le jeu.
On a plein de choses à se raconter dans un instant autour de cet éloge des mathématiques avec donc les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et deux sujets donc à la une de la science aujourd'hui, le climat et l'éclipse de lune. Hervé Kempf et Philippe Hénarejos, bonjour.
Bonjour.
Le climat tout d'abord avec vous Hervé Kempf, vous êtes journaliste pour le site Reporter, le quotidien de l'écologie. On fait d'abord un petit tour de l'actualité scientifique. Qu'est-ce qu'il faut retenir Hervé de ces dernières heures avant la COP21, fin novembre?
Un article très intéressant qui paraît tout à l'heure, cet après-midi, dans Nature Climate Change. Mm-hmm. Un article de recherche en sciences sociales, en fait, et qui s'intéresse à comment convaincre les gens que le changement climatique, c'est important, il faut agir. Et plutôt que de dire le changement climatique, c'est grave, c'est la catastrophe, insister sur les bénéfices et qu'on peut retirer d'une lutte de prévention du changement climatique.
Eh bien justement, si nous arrêtions de parler de la catastrophe climatique, c'est à la une aujourd'hui.
Et si l'humanité devait disparaître avant le prochain siècle ? Quelle pourrait en être la cause? Parmi les risques actuels, les chercheurs évoquent ainsi un changement climatique extrême, une catastrophe écologique majeure, une pandémie mondiale.
Voilà une étude internationale donc parue aujourd'hui même. Vous le disiez, Nature Climate Change suggère, questionnaire à l'appui, que la meilleure manière d'induire une prise de conscience sociale du changement climatique, ce serait de changer notre manière d'aborder précisément le sujet, Hervé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christophe Demarque. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur justement de ce papier. Alors Hervé, d'abord des précisions, cette étude a été menée dans 24 pays et le résultat est presque toujours le même. Pour convaincre les gens d'agir pour le climat, eh bien mieux vaut ne pas leur parler de la fin du monde, mais plutôt du monde de demain.
Voilà, et des bénéfices que l'on tirerait d'une vraie politique de prévention du changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont, Monsieur Demarque va mieux nous expliquer la méthode qu'il a suivie, mais ce qu'il ressort clairement, c'est que si l'on insiste notamment sur les possibilités de développement économique liées à l'économie verte, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, d'autres modes de transport, etc. Mmh. Ça a un effet très favorable pour inciter à l'action, non seulement auprès des gens qui sont déjà convaincus par le changement climatique, et ils sont nombreux, mais aussi par ceux qui ne le sont pas, qui sont climato-sceptiques ou indifférents. Parler du développement économique possible est important. Deuxième enseignement très important, c'est que si l'on insiste sur le côté, alors l'anglais, l'article est en anglais évidemment, parle de bénévolence, on pourrait traduire ça par solidarité, par goût de la communauté, par retisser des liens sociaux dans la société, eh bien si les chercheurs, le questionnaire insistent sur cet aspect, c'est aussi un autre bénéfice très utile qui est mise en avant par les gens. Oui, si ça aide à ce que la communauté, la société aille mieux, nous sommes d'accord pour aller dans cette direction.
Axel.
Oui, on va demander à Christophe Demarque comment vous avez mené cette étude, comment êtes-vous arrivé à ces conclusions ?
Oui, donc en fait, on demandait aux participants de réfléchir aux conséquences que pourraient avoir les actions mises en place pour limiter le changement climatique. Alors là, dans notre échantillon, c'était sur la société française, et de se projeter en 2050. Alors on leur demandait, penser à ce que seraient les Français, quelles seraient leurs valeurs, comment fonctionnerait la société française si nous mettions en place des actions contre le changement climatique. Et ce qu'on observe, c'est que plus je pense que les co-bénéfices pour la société française sont importants en termes de développement économique et scientifique, comme vous l'avez dit, mais aussi en termes, voilà, vous avez des bénévolences, on pourrait dire de climat social aussi positif, c'est-à-dire le fait d'être attentif aux autres, la question de la justice sociale, de l'égalité. Eh bien oui, là, on observe des corrélations entre cette perception de co-bénéfices et des intentions comportementales, c'est-à-dire le fait de se déclarer être prêt à agir contre le changement climatique dès aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est intéressant, et M. Kempf l'a souligné, c'est qu'on retrouve ce lien même chez les individus sceptiques.
Est-ce que Christophe Demarque, du coup, ça nous incite à revoir entièrement notre façon de communiquer autour du climat ?
Alors, pour un petit peu peut-être nuancer ce qui a été dit, il est clair que la communication sur les aspects climatiques, elle est importante, et on observe que une grande majorité de notre échantillon, plus de 6000 personnes, est quand même convaincue de la réalité du changement climatique. Mmh. En revanche, il est clair qu'on fait le constat aussi que cette stratégie, elle arrive un petit peu en bout de course, et qu'il est nécessaire de trouver d'autres moyens de communiquer. Et en effet, la question des co-bénéfices paraît une piste intéressante.
Hervé Kempf, on se rend quand même bien compte qu'il reste encore beaucoup de climato-sceptiques dans les pays anglo-saxons avec cette étude.
Les pays anglo-saxons et aussi dans les pays en développement, puisque cette étude a porté sur 24 pays, un certain nombre de pays du Sud. Ce n'est pas que les gens interrogés, qui sont souvent d'ailleurs des étudiants, et seraient climato-sceptiques, mais ils peuvent être indifférents à la question du climat.
Et eux sont quand même touchés par cet aspect du monde à venir.
Oui, tout à fait. Comme l'a dit le chercheur M. Demarque, ces deux aspects fonctionnent, si j'ose dire, sont opératoires sur les deux types de personnes interrogées.
Voilà donc pour cette étude qui est parue aujourd'hui. Et on va se retrouver régulièrement le lundi, Hervé Kempf, pour préparer avec vous la conférence sur le climat. On se retrouvera donc lundi prochain. Merci à Christophe Demarque. Et puis on peut aller sur reporter.net en attendant. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis bien sûr, dans l'actualité, il y avait aussi cette nuit l'éclipse totale de Lune.
Franchement, je suis soufflée de voir une telle beauté.
C'est la première éclipse de Lune qu'on voit. Donc du coup, c'est super joli. On aime bien l'astronomie, mais on est vraiment débutants. Donc en fait, c'est la première vraie observation qu'on fait.
C'est une belle occasion pour commencer.
C'est assez fou. J'ai entendu ça à la radio et à la télévision et du coup j'avais envie de venir voir un peu plus près le ciel. C'est super en tout cas.
Voilà Philippe Pénarejo, aussi, il suffit de voir nos mines pour comprendre qu'on a aussi assisté à cette éclipse totale de Lune cette nuit. Qui autour de cette table, Alain Badiou, Jean Dombre et Frédéric Morlot, est-ce que vous avez eu le courage de vous lever à 4h du matin, Alain Badiou?
Je ne l'ai pas vu, je dois dire.
Bon, vous avez vu les photos peut-être, en tout cas, qui sont parues un petit peu partout. Jean Dombre, je crois que vous avez vu...
Oui, hein, oui, j'ai voulu voir.
Vous êtes levé.
C'était avec plaisir.
Voilà, et Frédéric Morlot?
Je plaide coupable, j'ai pensé à mes élèves le lendemain.
Bon, c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de photos qui circulent, Philippe, et les conditions étaient exceptionnelles quand même pour l'observer, cette éclipse totale.
Parce que pour voir une éclipse, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, qu'il y ait une bonne météo. Mmh. C'était le cas sur la majeure partie du pays. Je pense qu'il y a quelques endroits où il y a quelques brumes, hélas. Mais en gros, on avait quand même un grand beau temps.
Oui, c'est vrai. Axel. Hein.
Philippe, expliquez-nous pourquoi, quand l'éclipse est apparue, la Lune paraissait plus petite qu'en début de soirée.
Oui, ça c'est la question que tout le monde s'est posée.
Alors déjà, ça n'a rien à voir avec l'éclipse.
Oui.
C'est parce que au moment de l'éclipse, elle était assez haute dans le ciel. Donc assez loin de tout référentiel... arbres, immeubles, collines qui est près de l'horizon. Et donc, vous pouvez vérifier cela par toutes les autres phases de la Lune ou toutes les autres pleines Lunes. Quand la Lune est près de l'horizon, le cerveau associe la Lune qui a quand même un fort diamètre apparent, elle est quand même assez grosse. C'est pareil pour le Soleil, d'ailleurs, quand c'est près de l'horizon, on le compare à ce qui est visible dans le même champ visuel. Quand c'est loin de tout référentiel, on a l'impression que c'est beaucoup plus petit. C'est une impression comme ça.
C'est un effet d'optique parce qu'on se trompe complètement.
Elle
était plus grosse dans le ciel.
En réalité, alors l'effet est pas visible, mais en réalité, du fait de la rotondité de la Terre, au moment où elle est au zénith, ou proche du zénith, proche du méridien plus exactement, elle est normalement plus près de nous que quand elle est à l'horizon est ou ouest. Oui. Mais bon, cet effet-là n'est pas vraiment mesurable. Mais en réalité, elle est à peu près 6000 km plus près.
Oui. Est-ce que ces éclipses nous apprennent aussi des choses intéressantes en matière scientifique, Philippe ?
Alors, en matière scientifique, il y a bien longtemps que ces éclipses de Lune ne servent plus beaucoup. Il y a quand même une expérience qui est en cours depuis les années 60. Il y a deux observatoires dans le monde qui ont deux télescopes, un aux États-Unis, un en France d'ailleurs, dans les Alpes, qui envoient un faisceau laser sur la Lune, alors pas n'importe où sur la Lune, mais à certains endroits où les astronautes des missions Apollo et où deux robots soviétiques, les fameux Lunokhod, ont posé des réflecteurs laser, et on envoie des tirs laser pour mesurer en permanence la distance au centimètre près entre la Terre et la Lune. Alors ça permet de calculer mieux l'orbite de la Lune sur des longues... Alors, pourquoi c'est mieux pendant une éclipse ?
Ben oui, parce qu'elle est plus près.
Hier,
elle était à son périgée, en tout cas.
Hier, c'était exceptionnel. Hein. Voilà. Mais pendant une éclipse, ce qu'il y a, c'est qu'au moment de la phase de la pleine Lune, la pleine Lune est très brillante. Donc, si vous envoyez un laser vers la Lune, les photons qui reviennent, ils sont quand même noyés dans une grosse soupe de photons très importante qui reviennent de la Lune. Or, pendant l'éclipse, la Lune est beaucoup moins éclairée par la Terre, il y a très peu de photons et on voit mieux le faisceau laser, donc c'est plus intéressant de tirer pendant les éclipses de Lune. Voilà.
Il y a des photons et il y a des photos aussi de l'éclipse qui sont très belles.
Oui, les photons qui viennent de la Lune ont été captés par les Terriens à travers leurs appareils photo.
Il y en a qui ont réussi leurs photos, ce qui n'a pas été notre cas par exemple avec nos smartphones, parce qu'on a fait vraiment des photos assez pourries, il faut bien le dire.
Oui, je confirme. Mais ce n'est pas vraiment de votre faute parce que les capteurs qui sont sur les smartphones sont très petits, donc la Lune était quand même c'était une lumière assez faible au moment de la totalité,
ça
compensait par une sensibilité accrue qui fait ce qu'on appelle un grain énorme en photo et qui fait que ça fait un côté un peu impressionniste, mais pas impressionnant.
Bon, c'était sympa, vous avez quand même retweeté la mienne sur Twitter, donc on peut aller sur Ciel et Espace, Philippe, pour voir de vraies belles photos
il y a quand même des astronomes amateurs et des astrophotographes qui maîtrisent parfaitement toutes ces techniques et qui maîtrisent aussi les avant-plans. Il y a des très belles photos avec la Tour Eiffel, avec tout un tas de monuments. On en a mis quelques-unes, on en mettra d'autres à mesure qu'elles arriveront dans la journée. Elles sont déjà très belles.
Et espace sur Internet. Et puis pour terminer, une annonce que la NASA nous promet très importante au sujet de Mars cet après-midi. C'est quoi le scoop là ? On a découvert des martiens.
Si je le savais, croyez bien que je vous le dirais. Je méfie toujours un peu des annonces très importantes de la NASA sur Mars. On verra ce soir ce qu'il en est. C'est peut-être concernant l'eau, l'air, la vie, c'est ça, Mars.
Si c'est important, on vous retrouve demain, dans tous les cas, c'est
Bah oui, je reviendrai avec plaisir.
C'est notre deuxième journée. Merci beaucoup, Philippe Pénarejo. C'est donc Ciel et Espace pour voir les photos de l'éclipse totale de Lune. Cause I got a chance. I wanna you to dance with me. Cause I got a chance. Ifen, Ifen sur France Inter.
Vous avez quel âge ?
J'ai 14 ans.
Et quand vous avez tourné le film, vous aviez donc 13 ans, 13 ans et demi ?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous êtes un bon élève ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ? Vous n'aimez pas travailler ?
Si, j'aime bien travailler, mais enfin, je suis assez... m'en fous, quoi.
Et quelles sont les matières dans lesquelles vous êtes mauvais, par exemple ?
Surtout les maths.
Surtout les maths ? Et le reste, ça va ?
Le reste, ça va.
Voilà, c'était Jean-Pierre Léo à Cannes en 1959. Il avait 14 ans pour illustrer notre sujet Éloge des mathématiques. C'est un livre d'entretien qui vient de paraître chez Flammarion dans la collection Café Voltaire. Entretien entre le philosophe Alain Badiou et Gilles Aéry. Alain Badiou, vous êtes donc l'invité de l'émission cet après-midi avec à vos côtés deux mathématiciens qui ont lu votre ouvrage. Jean Dombre, qui publie avec trois autres confrères Mathématiques en liberté aux éditions La Ville Brûle. Et puis le polytechnicien Frédéric Morlot. Les messages des auditeurs arrivent déjà pour vous sur France Inter. .fr. Alain Badiou, après un éloge de l'amour et du théâtre à Avignon, vous avez participé à la Villa Gilet, justement à Lyon, à un entretien qui a donné naissance à cet éloge des mathématiques. Vous racontez donc dans ce livre votre fascination pour cette discipline que vous pratiquez d'ailleurs régulièrement, et vous dites que votre lien aux mathématiques s'est construit avant même que vous naissiez.
Oui, tout simplement parce que mon père était professeur de mathématiques, donc si on imagine que les dispositions symboliques fonctionnent au moment même de la naissance, on peut dire que je suis né sous un certain signe mathématique, malgré tout.
Vous parlez d'une imprégnation primitive.
Hein. Ben oui, primitive, oui, tout à fait primitive.
Ouais. Ça vous a beaucoup marqué donc pour la suite ?
Eh bien, je pense que oui, parce que malgré tout, la figure de mon père, qui est une figure très complexe, parce qu'il était par ailleurs homme politique, résistant, il a été maire de Toulouse, etc., les mathématiques conservaient pour lui une sorte de présence, de fascination au milieu de quantités d'activités différentes. Ouais. Si bien que j'ai appris dans mon enfance aussi la singularité des mathématiques, et le fait qu'il en faisait pour son plaisir. Il était professeur de mathématiques, mais il y a eu un moment où c'était pour d'autres raisons personnelles qu'il continuait à lire des livres de mathématiques, faire des problèmes. Je le revois griffonnant sur des bouts de papier parce qu'il avait tout d'un coup une idée. Et ce chose-là, malgré tout, ça marque un enfant. Hein.
C'est ça, ouais. Et vous dites-vous, ce sont les démonstrations qui vous ont captivé aussi au départ, hein ?
Un peu plus tard, oui. Un peu plus tard, le caractère, en vérité, stupéfiant de certaines démonstrations. Il faut aussi avoir un rapport un peu baroque aux mathématiques, un peu divers, un peu varié, ne pas les aplatir sur une surface trop grisâtre. Les mathématiques, c'est une série d'événements aussi. Il y a des événements de la pensée, il y a des choses qui sont démontrées qui sont étonnantes, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, il y a des figures étranges, etc. Et à travers tout ça, effectivement, je me suis aussi dit que, tout de même, les mathématiques, c'est l'endroit où... la discussion des choses permet un accord absolu. Oui. Et ça, c'est quand même inégalable, c'est quand même une leçon.
Ah oui, parce que vraiment, vous faites l'éloge des mathématiques, et alors vous êtes très critique par rapport à la philosophie quand même. Vous avez la dent extrêmement dure dans ce livre sur votre propre discipline.
Ah, oui,
qui est bien châtiment, mais enfin là, vous y allez fort.
J'ai la dent dure parce que si on la compare aux mathématiques, la philosophie a quand même une position un peu humble. Que tous les grands philosophes ont reconnu. Que tous les grands philosophes ont reconnu.
Une révérence. Vous dites qu'il y a une révérence de la philosophie envers les mathématiques.
Eh bien oui. Et le philosophe qui connaît les mathématiques espérerait volontiers parvenir à la même rigueur. Mais il n'y parvient pas. Il le sait, malgré tout. Même quand il prend les mathématiques comme modèle, c'est le cas de Descartes, c'est le cas de Platon. Ouais. C'est même encore le cas de philosophes qui ne sont pas particulièrement tournés vers les mathématiques, comme Hegel, mais qui sentent bien qu'il faut discuter avec les mathématiques, que c'est une chose essentielle. Et malgré tout, il y a toujours un moment où la rectitude mathématique, je dirais même la loyauté mathématique, c'est une discipline loyale, ouais. Mathématique. La tricherie, ça n'existe pas en mathématiques. Oui, On peut pas faire passer un faux raisonnement pour un vrai raisonnement, c'est pas possible. Ouais. Eh bien, où tout ça humilie un tout petit peu la philosophie et lui donne un petit air rhétorique.
C'est ça. Mais vous êtes d'une indulgence avec les mathématiciens, mais c'est incroyable dans le livre. Parce que alors, vraiment, avec les philosophes, vous dites, les philosophes aujourd'hui, les nouveaux philosophes, n'y connaissent rien en mathématiques, c'est une véritable catastrophe. Mais les mathématiciens qui n'y connaissent rien en philosophie, c'est pas très grave, au fond. Hein.
Je leur pardonne. Au nom de leur génie. Je pardonne moins facilement à mes confrères, en effet, d'ignorer absolument les mathématiques, ce que je pense être, d'une certaine manière, un crime contre la philosophie elle-même, finalement. Ouais. Mais les mathématiciens, vous savez, ceux que j'ai connus, que j'ai côtoyés, j'ai côtoyé y compris certains mathématiciens importants, j'ai croisé Grothendieck à l'école normale, etc. Je vois bien que le mode d'imprégnation, je parle de ceux qui sont créateurs, de ceux qui inventent, il y a un côté mystique, à mon avis, dans le grand mathématicien. Il y a un côté mystique, c'est pas simplement la démonstration, là. Il y a une vision, il y a une véritable vision. Et la démonstration, après, c'est pour transmettre, c'est pour convaincre. Oui. Mais il y a une vision, et malgré tout, ce genre de mystique, je ne peux que m'incliner, je ne peux que la respecter. Oui. Parce que, entre nous, par contre, un philosophe médiocre, il est très loin d'être un mystique.
Hein. Oui. Et apparemment, il y en a beaucoup, aujourd'hui, des philosophes médiocres, à vous dire.
Vous savez, aujourd'hui, on parle de philosophie pour un oui, pour un non. C'est-à-dire, on baptise philosophes des gens dont le contexte de connaissance, la pratique minimale des sciences, etc., est nul. Donc, en vérité, il y a un moment donné, entre le chroniqueur médiatique et le philosophe, la distance est nulle. Et malgré tout, connaître les mathématiques, c'est déjà un premier critère. Parce que pour les connaître, il faut travailler. Ça, voilà. Il n'y a rien à faire.
Je crois que ça, c'est un point, essentiel.
Alors, vous avez lu le livre d'Alain Bazio.
Avec plaisir, intérêt, avec la variété des choses. En plus, faisant en France, ce qui n'est pas souvent fait, un éloge de cette partie des mathématiques qui est devenu partie des mathématiques qui ne l'était pas auparavant, mais au siècle dernier, c'est arrivé, avec la logique mathématique. Il y a peu, peut-être pour une mauvaise habitude, disons, d'une certaine école bourbakiste ou quelques autres voisines, on avait considéré que la logique, c'était une affaire, comme disait le mathématicien, de philosophe. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu les théorèmes de Gödel et quelques autres choses de ce niveau, quand même, il a fallu un petit peu réfléchir. C'était agréable de lire, parce que d'habitude, les logiciens, et ceux qui en parlent, ne sont pas drôles. Ne disent pas ce qui est important, le côté il y a une passion dans la découverte en logique aussi bien qu'en mathématiques.
Il y a une joie, il y a la passion.
Oui, il y a une passion de découverte et une passion d'arriver à montrer certaines choses. Alors je pense que pour les mathématiques, c'est quelque chose qui doit jouer un rôle fondamental pour un philosophe doit être extrêmement prenant, même s'il s'agit de passion. Le fait que moi, je veux dire, nous, n'importe qui, à condition d'avoir travaillé, c'était le point essentiel, peut maîtriser entièrement. Il n'y a pas de choses cachées une fois que vous avez. Il s'agit pas simplement de la démonstration. Il s'agit d'avoir compris une structure. Une fois que vous avez compris que dans un des théorèmes de Gödel, vous faites une analogie avec l'ensemble des entiers naturels, puis vous raisonnez sur ces entiers naturels, c'est quelque chose qui est les entiers, l'arithmétique, quoi, la chose non pas triviale, mais la chose ordinaire. Mm-hmm. Une fois que vous avez, une fois que vous avez réussi à comprendre. Votre joie est bien celle, j'en pourrais pas le mot de dominer parce qu'on a l'impression que dominer, il y a puissance. Non, c'est quelque chose de partager avec vous-même et puis avec cette chose qui est en face de vous, qui est la démonstration, qui est la théorie, etc. Les mathématiques, je le définis comme ça, c'est un des rares domaines où je suis toujours le maître de ce que je sais.
Frédéric Morlot.
Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, infiniment, dans le savoir mathématique, c'est que ce n'est pas un savoir réservé. C'est un savoir qui est destiné à quiconque, véritablement, à condition d'avoir un minimum de bagage, on va dire, culturel, et puis de pouvoir d'inférence logique. Ensuite, à peu près n'importe qui, à vrai dire, est capable de comprendre une démonstration, pourvu qu'on prenne le temps de lui expliquer les détails, etc. J'en ai fait l'expérience modestement, pour avoir arpenté longtemps les couloirs des compétitions de mathématiques entre jeunes, des concours ludiques, etc. Mm-hmm. Il y avait vraiment des gens de toutes les classes sociales. Et ça, c'est quelque chose dont je veux témoigner, parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui que les mathématiques sont un instrument de sélection. Ouais. Dans une certaine mesure, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Mm-hmm. En étant prof en classe préparatoire, surtout dans un bon établissement, je suis aux premières loges pour observer ce phénomène. Mais tout de même, parmi bon, lâchons un gros mot, l'élite mathématique du pays en France.
Ouais.
Vraiment, on trouve de toutes les origines sociales. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique et particulier aux mathématiques, il me
semble. Alors, Alain Badiou, parce que vous parlez bien de la distance, quand même, entre la plupart d'entre nous et le monde des mathématiques.
Oui,
il y a quand même cet écart vertigineux.
Justement, cette distance, en un certain sens, est étrangement paradoxale à la fin des fins. Elle n'est pas aussi naturelle qu'elle en a l'air. Je pense qu'on confond deux choses. Il existe sans aucun doute une aristocratie de mathématiciens créateurs dont les visions, les constructions ne seront disponibles pour le commun des mortels que plus tard.
Là, c'est le milieu très fermé que vous décrivez.
Oui, c'est un milieu fermé, c'est surtout un milieu dans lequel le savoir accumulé et la vision partagée tient un tel rôle que c'est comme la grande peinture ou la grande musique, après tout. Hein. Ça invente des choses qui ne sont pas courantes. Mais je pense que, par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec vous. Les mathématiques, d'une certaine manière, c'est la chose la plus simple du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché. Il n'y a pas besoin d'interpréter les choses. Ce qui est écrit. Et de ce point de vue-là, c'est profondément démocratique. On pourrait même se demander si les mathématiques ne sont pas la chose absolument démocratique, parce que, en vérité, rien n'interdit à quiconque d'avancer. Il avancera à sa vitesse, c'est sûr, il avancera à sa vitesse, mais rien ne lui interdit d'avancer. Et quand il a, là je suis d'accord avec Nombre, quand il a compris quelque chose, d'une certaine manière, il l'a compris à égalité avec tous ceux qui la comprennent. Voilà. Quand vous avez bien compris un théorème, ben vous êtes à égalité avec tous ceux qui peuvent le comprendre. Donc c'est un modèle aussi d'égalité, les mathématiques. Alors qu'il y a une aristocratie de créateurs.
Sages comme des sauvages, Laila Como sur France Inter, pour parler donc des mathématiques à l'occasion de la parution de cet ouvrage chez Flammarion, Éloge des mathématiques. Alain Badiou est avec nous, en compagnie également de Jean Dombre et Frédéric Morlot, et Cédric Villani également en 2015, c'était en février dernier.
Qui dit mathématiques dit pas seulement le simple fait de résoudre des problèmes, mais dit aussi toute une communauté, toute une culture, des habitudes, des modes de pensée, des problèmes, des buts, des réalisations célèbres, des héros, et puis des Graals. Et vous pouvez faire l'expérience, et les mathématiciens, ils vous parleront de beaucoup de problèmes ouverts Contrairement à une fausse idée répandue qui voudrait qu'on a essentiellement compris les sciences mathématiques, on peut considérer qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes ouverts en mathématiques que maintenant.
Voilà Alain Badiou, la voix donc de Cédric Villani, qui fait pas partie de la catégorie des aristocrates justement dont vous parliez tout à l'heure.
C'est-à-dire que c'est un aristocrate
d'une certaine manière.
Il ne pas l'être.
Voilà, mais il a mouillé beaucoup. Il a beaucoup mouillé sa chemise quand même aussi. Hein, pour faire.
Oui. Non, il se donne beaucoup de mal que j'approuve, que j'apprécie pour précisément. User de sa grandeur mathématique, de son prestige et de sa connaissance, en mettant un certain nombre des éléments de son expérience à la disposition de tout le monde. Et je salue ce grand aristocrate qui se tourne vers le peuple.
Voilà, c'est ça, qui est ouvert. Les problèmes, on n'en a jamais eu autant de problèmes ouverts, justement, dans les mathématiques. Jean Dombre, vous êtes d'accord aussi avec ça?
Ah oui, bien sûr, tout à fait.
À quoi est-ce dû?
Peut-être, alors disons tout bêtement, par le fait que jamais il n'y a eu autant de mathématiciens au monde. Mmh. Ils étaient combien à Athènes? 4-5 autour de Dox, de gens comme ça. Non, je veux dire, il y a quelque chose de presque même de phénoménal dans la production mathématique. Mais la chose qui serait peut-être intéressante à dire, c'est que le domaine mathématique, si on peut parler ainsi, s'est étendu d'une façon formidable. Qui aurait pensé, alors pourtant c'est vieux, mais vieux en un sens, mais qui aurait véritablement pensé qu'au fond, la plupart des problèmes de statistique et de probabilité sont des mathématiques. Ça nous touche humainement, ça nous touche socialement, ça nous touche culturellement, mmh. Mais pourtant, fondamentalement, la loi des grands nombres, c'est une loi mathématique, c'est assez fort. Et alors, cette variété, la combinatoire aujourd'hui fait des choses absolument étonnantes, et peut-être ce qui est de nos jours là où il y a peut-être le plus de choses ouvertes, en dehors des vieilles, des vieux problèmes, il y en a quelques-uns qui restent encore, il y en a de nouveau à cause des phénomènes de classification des mathématiques, des mathématiciens bien classés, alors quelles sont les courbes de tel type que je peux mettre dans tel endroit, qu'est-ce que la dimension, par exemple, trois dimensions, c'est évident, mais si je définis la dimension un peu autrement que ce qu'on a l'habitude avec des remplissages de boules et de pavés, voilà que j'obtiens des dimensions qui ne sont pas des dimensions entières. Ça fait rêver, non seulement ça fait rêver, ça fait travailler. Mais je crois qu'il y a quelque chose de encore plus de cette, d'abord, cet éclatement, et le mot mal choisi, parce qu'on voudrait dire que ça disparaît, mais cette extraordinaire extension du domaine mathématique dans lequel on peut reconnaître, et c'est là quelque chose de fort, dans tous ces domaines, je peux dire, ah oui, ce sont des mathématiques.
Ouais. Mais est-ce que c'est pas une spécialisation, justement, aujourd'hui, Frédéric Morlot, des mathématiques, plus que jamais?
Indéniablement, oui, il y a une atomisation, une spécialisation des savoirs mathématiques. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de complexité et de virtuosité, en fait, de technicité, que pour aborder correctement un sujet, minimum, il faut avoir fait une thèse, généralement un post-doctorat, voire un deuxième, avoir travaillé peut-être pendant 10 ans sur le sujet, et à la fin, vous avez 40 ans, vous arrivez sur un domaine où vous êtes peut-être 15 ou 20 personnes au monde à savoir exactement de quoi vous parlez.
Ouais.
Mais, au milieu de tout ça, et ça me paraît très important, même s'ils sont rares, il reste quelques figures un peu universalistes. Je pense à quelqu'un comme Terence Tao, par exemple, un mathématicien maintenant qui exerce aux États-Unis, qui ont un savoir vraiment très très large et colossal, et qui ont un rôle de rassembleur, des espèces de pasteurs du troupeau des mathématiciens.
Ouais. Alors justement, Alain Badiou, est-ce qu'il y a une langue mathématique qui permet justement à tous les mathématiciens dans le monde de parler cette langue propre qui est hors des autres langues du monde?
C'est une question difficile parce que le langage lui-même a tendance à se morceler au fur et à mesure que la définition précise de toute une série de concepts est engagée dans un contexte particulier. Donc la langue mathématique m'a toujours séduit aussi par le fait que, contrairement à ce qu'on croit, elle est extraordinairement métaphorique. C'est-à-dire qu'il y a une poétique de la langue mathématique, c'est-à-dire il y a l'écriture mathématique, mais l'écriture mathématique n'est pas du tout le tout de la langue. Vous avez des faisceaux, vous avez des gerbes, vous avez des courbes,
des tonneaux,
des anneaux, vous avez des corps, vous avez des idéaux, vous avez et moi dans les domaines que je connais le mieux pour des raisons philosophiques, qui sont les domaines en quelque manière les plus ontologiques, si l'on peut dire, les plus proches de la généralité, il y a là même là une langue extraordinaire. Il suffirait de présenter la liste des types d'infini, par exemple, en théorie des ensembles. Mmh. Alors, vous avez les ensembles compacts, les ensembles super compacts, les ensembles énormes, les ensembles inaccessibles, etc., etc. Toute une zoologie, comme ça, mathématique, qui fait que le problème de la langue est double. Il y a le problème des lois générales du formalisme, de ce que c'est qu'une démonstration, donc la substructure logique, sur laquelle il y a un accord tout de même assez grand, même si on sait aujourd'hui que plusieurs logiques sont possibles, praticables. Mais l'écrasante majorité des mathématiques se fait en logique classique encore aujourd'hui. Hein. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce qui est par du fait que presque tout le monde reste platonicien quand même. Il y a ce côté d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a les désignations particulières de certains objets mathématiques, de certains types mathématiques, qui eux font quand même partie de la spécialisation.
Ouais. Mais vous parlez d'une internationale mathématicienne quand même.
Ah bah hein. C'est indubitable.
Ça fait aucun doute.
C'est indubitable. C'est la seule internationale véritable qui ait jamais existé, à vrai dire.
Qui ait jamais existé, qui existe encore.
Oui, il existe un congrès international des mathématiciens extrêmement important.
Les internationales communistes étaient des paniers de crabe. International mathématique. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les rivalités, les concurrences, c'est ça depuis toujours.
Oui, oui. Mais l'international est ancienne. C'est-à-dire que au XVIIe siècle,
tout à fait.
Au fond, ça n'a pas posé un problème majeur à ce qu'un jésuite italien puisse discuter mathématiques avec un extraordinaire mandarin chinois. Alors, il y a eu le problème de la langue bête de communication qui a été réglée en un certain temps, mais la communication s'est faite naturellement.
Ouais. Achille demande, est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'évaluer Alain Badiou les mathématiques d'une façon plus philosophique, justement, puisque ce livre aussi, c'est ça, hein, c'est le compagnonnage, au fond, hein, des deux disciplines.
Hein. Oui, je propose de dire à la fin du livre que du point de vue alors de la didactique mathématique, je pense qu'on pourrait introduire trois éléments de façon un peu plus conséquente, le jeu, on en a parlé,
l'histoire des sciences,
qui permet en fait d'aller assez loin en mathématiques avec de jeunes enfants, contrairement à ce qu'on raconte, et qu'on peut les passionner avec des petits théorèmes non négligeables, en fait. Donc ça, j'en suis convaincu. D'autre part, des éléments d'histoire, parce que malgré
tout,
il y a une histoire des problèmes, une histoire des problèmes, il y a une intelligibilité des problèmes qui est historique finalement.
Qui est historique.
Il y a des choses extraordinaires. On parlait par exemple de la théorie des nombres. La théorie des nombres, d'un certain point de vue, c'est la discipline la plus basique, la plus élémentaire, mais c'est celle qui comporte des problèmes qui ont été posés il y a plusieurs siècles et qui ne sont encore pas résolus. Donc cette histoire est passionnante et puis un peu de philosophie aussi, je crois. Un peu de philosophie, justement,
et sur
qu'est-ce que c'est qu'une démonstration.
Dès la maternelle.
Qu'est-ce que c'est qu'une pensée rigoureuse. En plus, je le dis aussi, les enfants adorent la philosophie. On l'enseigne beaucoup trop tard.
Frédéric Morlot.
Il me semble qu'il y a une manière d'enseigner les mathématiques en France, du moins au collège et au lycée, qui fait que beaucoup d'élèves pratiquent les mathématiques sans vraiment se poser de questions fondamentales. J'ai coutume de dire qu'ils pratiquent des mathématiques en apesanteur, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés s'interroger sur les fondements ontologiques, justement, comme disait Alain Badiou, qui préludent à tout cela. D'ailleurs, vous avez une phrase dans votre livre qui m'a beaucoup marqué, où en substance, vous dites que le mathématicien professionnel est en quelque sorte immanent à la création mathématique. Cela dit, de temps en temps, il a besoin de s'extraire un peu de tout ça. Et c'est la fameuse crise des fondements. Mon rôle avec des élèves de 18 ans, c'est de les accompagner dans cette crise des fondements. D'où anecdote historique, d'où comprendre la progressivité d'un problème, comment est-ce qu'on a affiné siècle après siècle une définition. L'aspect culturel est pour moi au moins aussi important que l'aspect purement technique.
Il y a peut-être une, puisque je parlais de cet agrandissement du domaine mathématique, il y a peut-être une révolution à faire intervenir dans l'enseignement des mathématiques. C'est justement la vieille tradition, quand même, dans Euclide, il n'y a pas un mot de philosophie, c'est interdit. Hein. Eh bien, précisément aujourd'hui, n'aurions-nous pas intérêt, c'est pas évident, mais n'aurions-nous pas intérêt dans les cours de mathématiques ? Techniquement parlant, à réintroduire une façon philosophique. Le problème est que la première fois où un prof de maths, le prof de philo, ça est encore plus difficile, mais la première fois où un prof de maths commence à établir une idée générale, c'est très simple, on voit toutes les plumes des étudiants, ils arrêtent de noter. Ça sert à rien. Enfin, ils ont l'impression que ça ne sert à rien. C'est pas par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire ou à la théorie qu'on est en train de développer. Ces remarques sur qu'est-ce que la continuité, maladie, maladroit. Or là, peut-être aujourd'hui, il y aurait une possibilité, il me semble.
Alain Madiou.
Alors, je suis entièrement d'accord à ce que vous avez dit tous les deux, vraiment. Je suis convaincu que la didactique mathématique doit changer. Elle doit changer parce qu'il y a quand même une complicité entre une conception, en quelque manière, purement technique de la mathématicité, à savoir je dois comprendre comment ça marche, et je dois résoudre le problème qu'on va me donner à l'examen, parce qu'en fait, c'est quand même ça, je dois connaître mon cours, bon, très bien. Il y a une complicité entre ça et, finalement, le fait que une bonne partie de la population considère que les mathématiques, c'est un truc impénétrable et inutile. Et je pense qu'il y a une responsabilité de la forme d'enseignement des mathématiques dans ce point, qui est que si on les liait davantage au débat d'idées, à la figure du jeu, à l'histoire, eh bien, on gagnerait beaucoup, y compris quant au résultat final. Parce qu'après tout, quand même, pour faire quelque chose, il faut s'y intéresser, un peu. Voilà. Il faut pas simplement le prendre comme un exercice d'assouplissement, comme ça, perpétuel. Or, les mathématiques sont un peu pratiquées comme ça. Et d'autant plus en France, que où elles jouent un rôle décisif pour la sélection au niveau des grandes écoles. Après, la plupart de ceux qui sont sortis de là n'en entendront plus parler. Ils auront chiadé les mathématiques pendant 3 ans. Et puis, tout ça est négatif. Everything to you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl.
Alain Badiou, l'invité de la Tête au Carré pour cet éloge des mathématiques chez Flammarion, avec également à ses côtés Jean Dombre et Frédéric Morlot, et aussi la visite de Raymond Queneau, c'était en 53.
Soit un ensemble comprenant une boule. J'ajoute une autre boule, je dis qu'il y a deux boules. C'est l'acte de naissance du nombre 2. J'aurais pu ajouter un réveil matin, j'aurais dit il y a deux objets. Naturellement, on suppose qu'entre 2 et 3, il n'y a pas d'autre nombre naturel. Si on en avait oublié un, on serait obligé de recommencer tous les calculs depuis que l'homme compte.
Voilà, c'était la leçon d'arithmétique de Raymond Queneau, Alain Badiou, pour poursuivre notre discussion ensemble. Vous parlez beaucoup de l'esthétique d'ailleurs des mathématiques aussi dans ce livre.
Oui, c'est une très vieille idée. Aristote déjà affirme que la véritable nature des mathématiques est esthétique. Et c'est très courant de parler de la beauté d'une démonstration. Et en mathématiques, on évalue aussi la qualité des démonstrations d'un point de vue qui n'est pas simplement le résultat, mais par exemple, si elle est élégante, si elle est courte, si elle est etc. Il y a quantité de critères esthétiques dans la pensée mathématique. Et c'est pourquoi, en effet, on peut parler d'une beauté des mathématiques.
L'élégance des théorèmes de géométrie plane. Par exemple,
dans les géométries planes, on a donné des problèmes sublimes de toute nature. Un seul triangle est un trésor inimaginable de théorèmes et de propriétés.
Sans nombre.
Juste pour rappeler, il y a cette côté merveilleux, effectivement, d'élégance qui est bien dit dans votre livre. Et puis, il faut jamais oublier, il y a ce vieux phénomène de mathématiques lié à la notion de discipline. Je cite très volontiers, c'est une phrase d'un janséniste, Arnaud, bien connu comme philosophe aussi, et qui disait que l'avantage de faire des mathématiques, alors la suite est un peu triste, eh bien, c'est que ça vous détache de la concupiscence de la chair. Et il le pensait. À s'occuper de choses qui sont abstraites, appelons le jeu comme ça, vous détachez du monde. Ouais. Et je crois que c'est, à mon avis, si on peut dire, c'est un péché de la part d'Arnaud. Enfin, il y a une erreur fondamentale, puisque au contraire, ce que Arnaud visait, c'était une seconde chose, l'orgueil du mathématicien. Il y a aussi un orgueil à dominer, à aller jusqu'au bout.
Frédéric Morlot.
Je me souviens que Grothendieck avait dit qu'il avait eu deux passions dans sa vie, les mathématiques et les femmes. Je le comprends bien, ça. Oui. On peut avoir un rapport charnel aux mathématiques
et
amoureux.
On peut aussi allier les deux. On peut être amoureux et résoudre un problème mathématique.
Ah oui, ça m'est arrivé dans ma jeunesse. C'était des moments intenses où j'étais en effet avec une jeune femme en train de travailler sur des problème de géométrie du triangle, d'ailleurs, extrêmement complexe, sur les cercles inscrits, ex-inscrits, etc. Et où notre amour s'infiltrait, dans la passion du déchiffrement de la figure.
Ouais, mais vous décrivez bien,
c'est pas du tout incompatible.
Et ça participe au bonheur aussi.
Tout à fait.
Que procurent les mathématiques.
Absolument.
Hein, quand on est sur la piste aussi de la solution.
Quand on est sur la piste de la solution et quand on s'aperçoit, c'est le point fondamental, qu'on a compris.
Ouais.
C'est pas simplement le résultat mécanique d'un calcul, c'est que tout d'un coup, tout s'éclaire.
C'est ça.
Le trajet tout entier s'éclaire. Ouais. Et ça, c'est un moment de ravissement, il n'y a pas de doute.
On est tellement ravis, généralement, qu'on se refait mentalement le circuit plusieurs fois de suite.
Exactement.
Il y a ce circuit de réponse dans lequel on se dit, mais
c'est pas vrai, c'est quasiment pas vrai. Ça passait, quoi. Ça passait.
C'est un chemin de montagne, sinueux, tortueux. Et puis on arrive sur
la comparaison que j'aime beaucoup. Il y a des choses un peu dures quelquefois. Voilà. En particulier, on n'aime pas beaucoup quand on sèche, quoi. Quand on ne comprend plus, quand on est dans la nuit, mais quand on s'acharne et que finalement on a l'éclaircie finale, c'est admirable et ça ne se compare pas à grand chose finalement. Hein. C'est une intensité très particulière.
Alain Badiou, vous dites que longtemps il y a eu ce va-et-vient entre les mathématiques et la philosophie, en tout cas pour vous, avec une certaine division qui n'existe plus apparemment aujourd'hui, à laquelle Jean-Paul Sartre n'a pas été totalement étranger, c'est ça ?
Oh, Jean-Paul Sartre et beaucoup d'autres. Il y a eu dans le courant de l'après-guerre une manière de manier le courant phénoménologique, existentialiste, etc., qui a comporté, de façon d'ailleurs tout à fait absurde, une sorte de mépris de la pratique scientifique, de mépris des mathématiques. Je dois dire qu'il s'est produit une catastrophe en France qui a été que les deux philosophes qui promettaient de refaire ce ralliement, à savoir Jean Cavaillès d'un côté et Albert Lotman de l'autre, qui étaient deux génies, à mon avis, philosophiques et mathématiques dans leur parti, se sont engagés dans la résistance et ont été tués par les nazis. Et je pense que ça a réellement frappé la philosophie française quant à ses orientations les plus fondamentales. J'espère contribuer à ce que nous remontions la pente.
Luc nous dit, les mathématiques ne sont-elles pas finalement un outil qui permet de comprendre notre monde ? La physique sans les maths, c'est comme un squelette sans chair, un genre d'ombre.
Oh oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que même, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut parler de la physique ? Est-ce qu'il ne faut pas parler, cette entité, la mathématique physique, la physique mathématique, mais le mettre en un seul mot, ne pas le mettre en une spécialité universitaire, je crois.
Vous avez certains spécialistes de la théorie des cordes aujourd'hui, donc qui se définiraient d'abord comme physiciens, qui ont été récompensés par la médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de maths.
Pour les mathématiciens. Morgane nous dit ceci, j'ai toujours été nul en maths, mais passionné par l'histoire, pourquoi ne pas enseigner les théorèmes avec leur contexte historique et leurs répercussions dans la vie courante ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure à Alain Badiou. Le concept de l'infini, c'est central aussi pour vous.
Il a même été dit plusieurs fois qu'en définitive, les mathématiques, c'est la science de l'infini. Ouais. Je dirais même que les mathématiques, sur ce point, ont réussi à produire une véritable pensée de l'infini, qui d'ailleurs continue à se déployer dans des conditions d'une complexité extraordinaire. Je montre que l'infini est une question qui est loin d'être en quelque sorte résolue et fermée. Et évidemment, c'est le point sur lequel la tradition philosophique, très marquée par la théologie, c'est-à-dire très marquée par l'idée que l'infini, en définitive, c'est une transcendance impénétrable, s'est trouvée quand même bousculée et complètement dévastée et transformée en maintenant par les mathématiques.
Oui.
Et moi-même,
il n'y avait plus de place pour la croyance, pour la mythologie avec les maths.
C'est pas exactement ça. C'est pas une incompatibilité absolue. C'est que quand vous avez la croyance, la mythologie, la foi, la religion et une partie de la philosophie, vous avez une conviction qui est une conviction qui se donne dans le récit, qui se donne dans la narration, qui se donne dans la séduction. Quand vous avez une conviction mathématique, elle est d'un autre ordre. Elle est d'un autre ordre parce que vous acceptez que ce que vous dites soit soumis à une critique impitoyable de ceux qui partagent le problème avec vous. Et ça, évidemment, c'est irremplaçable.
Et quelquefois, une critique tellement facile, au fond, si on essaie d'interpréter le procès Galilée, avec peu de choses. Je ne dis pas que Galilée démontre, mais avec tellement peu de choses, Galilée démontre que tout un savoir était inutile.
Exactement.
Frédéric Morlot.
Moi, je dirais que ça a plutôt poussé à réconcilier foi et raison. Avec l'exemple de la foi catholique, par exemple, depuis 50 ans environ, qui travaille énormément là-dessus, le Concile de Vatican II, etc. Je pense qu'il y a un grand mouvement de rassemblement, plutôt, maintenant, de ce côté-là.
Ouais. Alain Badiou, vous pratiquez toujours les mathématiques régulièrement ?
Oui, toujours, toujours. Au fur et à mesure de mes besoins philosophiques, en ce moment, précisément, pour des raisons qui tiennent au développement de ma pensée, dont je ne vais pas parler ici, j'ai absolument besoin d'entrer au plus loin possible dans les théories contemporaines de l'infini. Et c'est un dur travail, mais je le fais avec le plus grand plaisir.
Parce qu'il vous procure aussi beaucoup de joie.
Des théorèmes absolument prodigieux, à vrai dire.
Merci beaucoup, en tout cas, Alain Badiou, avec Gilles Aéry. Éloge des mathématiques, c'est au Café Voltaire chez Flammarion. Et puis, mathématiques en liberté à la ville brûle, Jean d'Ombre, avec Pierre Cartier, Gérard Hensmann et Gerhard Hensmann et Cédric Villani. Et merci beaucoup, Frédéric Morlot. Vous avez un livre aussi sur Einstein qui était sorti en 2012 pour les plus jeunes.
Oui, dans une collection de philosophie pour enfants, voilà, qui va plaire à Monsieur Badiou.
Merci beaucoup à tous les trois.